Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, je reçois une voix que vous connaissez tous. Non pas pour parler musique, mais pour faire entendre une cause, celle des enfants déscolarisés en zone de conflit. Bonjour Oumou Sangaré.
Bonjour.
Soyez la bienvenue.
Merci beaucoup.
Chez 7 milliards de voisins.
Merci beaucoup.
Vous êtes toujours au téléphone, tellement sollicité, tellement occupé, à la veille d'un grand concert. Pour l'instant, la seule date en France, on
tout
va vous voir sur scène demain à la Villette.
Inch'Allah, tout à fait.
Et puis vous serez surtout en direct chez nous presque tout au long de la journée. On va vous retrouver tout à l'heure pour les émissions Vous m'en direz des nouvelles. Couleur tropicale. Bien sûr, vous allez parler de votre nouvel album, Mogoya,
qui
sort en mai prochain. Il va falloir patienter un peu pour les voisins.
Le 19 mai,
Voilà. Et puis le grand concert demain à Paris, à la Grande Halle de la Villette. Alors pourquoi l'éducation, ou plutôt pourquoi la privation d'école est un sujet qui vous touche particulièrement, Oumou Sangaré ?
Parce que vraiment, aujourd'hui, je ne suis pas là en tant que Oumou Sangaré.
Ah bon?
Non.
Ah, ils vont être déçus,
je
là, les
suis...
voisins.
Hein. Oui. Non, ils vont me comprendre. Je suis là en tant qu'une fille qui n'a pas eu la chance d'aller à l'école comme il faut. Donc, ça m'a donné l'idée de penser aux enfants qui se trouvent actuellement au milieu de guerre.
Donc, et d'insécurité.
Donc, ce soir, c'est sur ces tableaux quand même, sur ces plateaux quand même, c'est à peu près ça. Voilà.
On va en parler avec vous dans quelques minutes aussi. D'accord. Oumou Sangaré, nous serons en ligne avec un enseignant et directeur d'école, Ibrahim Agassarid. Il tente de reconstruire son école, s'appelle l'école des sables, détruite pendant le conflit. Aujourd'hui, ses 50 élèves se contentent d'une paillote sans eau potable, quelque part entre Gao et Taboy. Et puis, dans le studio, je vous présente Nihan Kosselechi. Bonjour.
Bonjour.
De l'UNESCO. Vous faites partie des experts du rapport mondial de suivi de l'éducation pour tous. Et vous savez qu'il y a de moins en moins d'argent pour l'éducation, pour les enfants dans le monde. Parmi les 57 millions d'enfants qui ne vont pas à l'école primaire, près de la moitié d'entre eux vivent dans des pays qui sont touchés par des conflits. C'est bien ça, Madame Kosselechi ?
Exactement. Exactement. Je pense qu'il y a plusieurs aspects. Le premier, effectivement, c'est la non-scolarisation. Et l'UNICEF a publié une estimation très récente. Un enfant sur quatre dans les pays à conflit ne sont pas scolarisés. Et dans certains pays, par exemple, comme Soudan du Sud ou le Niger, c'est 50% des enfants qui ne sont pas scolarisés. En Afghanistan, au Soudan, c'est 40%. Et avec l'intensification des conflits et les bouleversements politiques, effectivement, la situation est de plus en plus portée et concentrée au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.
Il y a urgence à se mobiliser.
Tout à fait.
Sandra Juvara-Mellon, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Vous appartenez à l'ONG Search for Common Ground, une ONG internationale. Vous intervenez sur l'éducation dans une trentaine de pays, aussi bien le Yémen, le Mali. À la base, votre organisation est une organisation qui travaille spécifiquement sur les conflits, c'est bien cela ?
Exactement. Search for Common Ground, qui veut dire, dans la langue de Molière, recherche de terrain d'entente, a pour but de transformer les relations entre groupes et individus qui ont des différends. Et nous œuvrons, en effet, dans à peu près une quarantaine de pays qui sont en conflit violent ou qui sortent de conflits violents.
Trouver un terrain d'entente, il me semble que ça, c'est un sujet qui vous concerne, Oumou Sangaré.
Oui,
ça vous avez écrit sur le sujet. et quant à vous, les voisins et les voisines, n'hésitez pas à nous appeler pour dialoguer, bien sûr, avec Oumou Sangaré sur l'éducation et sur son engagement citoyen. Je vous rappelle notre numéro de téléphone, 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins.
C'est vous qui faites l'émission.
Oumou Sangaré, vous n'avez pas grandi dans la guerre, mais tout de même, vous avez grandi, vous l'avez dit au début de l'émission,
tout à fait.
Avec pas assez d'école, et je dirais dans une certaine adversité de la vie.
Bon, c'est vrai, moi, je n'ai pas grandi dans la guerre, mais ce que j'ai rencontré dans la vie ne m'a pas permis de... La souffrance la séparation des parents. C'est ça qui m'a empêchée d'aller à l'école comme les autres enfants qui étaient là avec leur famille au grand complet. Moi, ma maman s'est retrouvée avec 6 enfants. Vous savez, l'Afrique, chez nous, il n'y a pas d'aide sociale. Donc, c'est une brave femme, une battante qui s'est battue pour nourrir ses 6 enfants dans la galère. Moi, je partais. Elle voulait que j'étudie. Elle s'est battue pour que j'étudie vraiment. Donc, à la longue, c'est elle-même qui me faisait pitié. Parce qu'il y a des jours où ça n'allait pas du tout. Et moi, j'avais un don en moi parce que ma grand-mère est une grande chanteuse. Elle-même, elle chantait dans la rue, dans les baptêmes. Si je dis dans la rue, c'est dans les baptêmes et les mariages chez nous. Voilà.
Donc, jusqu'à quel âge vous avez vraiment fréquenté les bancs?
Moi, j'ai fréquenté les bancs jusqu'à... Je me suis battue, mais c'était dur jusqu'à l'âge de 15 ans, 14, 15 ans. Ouais. C'était très dur parce que je partais à l'école les week-ends, les dimanches et les jeudis. Généralement, ça, c'est le mariage chez nous. Moi, je demandais la permission à des professeurs. J'arrivais même à payer certains professeurs pour qu'ils me donnent la permission pour que je puisse sortir.
Pour couvrir vos absences, en fait, à l'école.
Pour couvrir mon absence. Ben, ce n'était pas dans mon intérêt, mais je n'avais pas de choix. Et il fallait que je sorte pour aller chanter.
Double vie, en fait. Trouver écolière et artiste.
Trouver quelque chose pour aider surtout la famille. Voilà.
Mais alors, finalement, quelle a été votre école à vous, celle qui vous a forgée en tant que femme, en tant qu'artiste ?
C'est la souffrance qui a été mon école. Vous savez, la souffrance, elle fait deux à l'homme. Ou elle te détruit, ou elle te rend forte. Donc,
combattante.
Voilà. Moi, je pense que... Pour moi, ça vient de la souffrance. J'ai beaucoup souffert dans la vie, dans mon enfance, à côté de ma mère qui vit d'ailleurs jusqu'à présent.
Ouais, vous savez que ce que vous dites, ça a des résonances. Les voisins vous écoutent là pendant que vous dites ça, parce qu'il y a des voisins qui sont dans la même situation que celle que vous avez connue.
Tout à fait.
Alors vous le savez aussi, cette semaine, Oumou Sangaré se tient à Bamako la conférence d'entente nationale sur l'unité, paix, réconciliation.
Tout à fait.
Et bien sûr, la situation de l'école, la situation des familles, des civils est directement liée aux résultats concrets de toutes ces discussions. Je voudrais que nous donnions la parole à un directeur d'école et enseignant. Bonjour Ibrahim Agassarid.
Bonjour Emmanuel.
Vous avez fondé il y a
Bonjour
plus...
les voisins.
Soyez le bienvenu chez les 7 milliards de voisins.
Merci, Ibrahim.
Vous êtes fondateur, directeur de l'école des Sables dans la région de Gao, à Taboy, au nord du Mali. C'était une école, internat, confortable. Il y avait un potager, il y avait de l'eau potable qui accueillait des enfants, d'éleveurs, des Touaregs, mais pas seulement, des Sonrailles. Une école où il y avait aussi beaucoup de filles. Tous les cours se faisaient en français, vous obteniez des résultats incroyables à l'examen d'entrée en 6e. Cette école a été entièrement détruite pendant le conflit. Que sont devenus vos élèves, 5 ans plus tard ?
Alors, bonjour à tous les auditeurs de la RFI, bonjour à Oumou Sangaré et à tous vos invités. Alors, c'est une très bonne question. Mes élèves, en 2012, j'ai ramené avec moi au Burkina, mon pays d'exil, une trentaine d'élèves. Parce que je pouvais amener. Les autres sont rentrés chez eux. Parce qu'il ne faut pas oublier que 2013-2014, c'est là où il y a la guerre proprement dite. Parce qu'avant ça, c'était pas en 2011-2012, c'était pas une guerre très... elle a été médiatisée, mais les gens ont plutôt souffert de 2012-2013. Donc les enfants se sont éparpillés, se sont partis avec leurs parents très loin des villes, très loin des routes. Donc, ces filles-là, je n'ai plus de nouvelles. Mais ceux que j'ai ramenés au Burkina sont restés, ils ont continué leur cursus. Et il y en a qui ont pris le bac avec moi.
Alors, vous avez choisi, il y a quelques mois, de tout recommencer à zéro, avec une classe unique, 50 élèves, des enfants de 6 à 10 ans. Pas dans la ville même, d'ailleurs, de Gao ni Taboy. Pourquoi ?
Alors, il faut faire la politique de... Il faut savoir que maintenant, il n'y a pas beaucoup de soutien. Les ONG ne sont pas vraiment présentes là-bas de manière... Il y a encore l'insécurité pour sortir et aller dans les communes, les villages, les cercles les plus éloignés de Gao. Donc, on ne peut pas ramener les enfants à Kaboul parce que tout est détruit. Maintenant, on fait une politique pour rapprocher l'école dans un campement sédentaire. Donc, c'est juste pour se rapprocher des élèves. Maintenant, quitte à dans les conditions dans lesquelles ils sont, c'est effectivement c'est une paillote où quand il fait chaud, il fait vraiment très chaud. Quand il fait froid, il fait vraiment très froid. Il y a le vent, l'eau potable, c'est un puits pour tous les villages. Il y a les animaux qui viennent, les autres besoins du village. Donc, la raison, c'est juste parce qu'il faut se rapprocher des élèves. Puisqu'on n'a pas les moyens de les amener comme il y a 15 ans dans un village avec un internat, avec de l'eau potable, avec...
Donc cette toute petite école qui reprend tout à zéro, vous êtes au milieu de nulle part, ou presque, il y a un seul enseignant, c'est bien cela, Ibrahim ?
Exactement.
Mais dans un tel dénuement, est-ce que vous avez malgré tout des craintes pour la sécurité de cette école et de vos enfants ?
Alors, c'est quelque part aussi une autre... arriver à ces... On se cache un peu, parce que quand vous allez dans une ville qui n'est pas les grandes villes sécurisées par les Nations Unies et autres, on peut s'intéresser à vous, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se tromper. Les djihadistes sont présents, hein. Ils sont présents aux alentours des grandes villes, ils sont présents sur... Donc, puisque nous, c'était l'école, le cursus le français, et en même temps, la mixité, on a filles et garçons dans la même classe. Donc si on s'expose et on se met dans des villes où on a écho de nous, ça peut venir nous demander des orientations de ce que nous allons enseigner, de ce que nous allons, comment nous allons être. Donc c'est aussi une autre façon d'être discret.
Finalement, c'est ça, être au milieu de nulle part dans un tel dénuement, c'est presque une manière de jouer la sécurité pour vous, pour faire votre travail d'enseignant et de directeur d'école. Hein.
Exactement.
Officiellement, Ibrahim Agassari, les écoles fonctionnent partiellement dans le nord du Mali. Pour vous, en tant qu'enseignant, directeur d'école depuis près de 20 ans, vous diriez dans quel état est l'éducation dans cette région ? Qu'est-ce que vous voyez ?
Alors, il faut dire qu'il y a une grande communication qui a eu lieu entre 2014-2015 pour dire que les écoles ont réouvert dans tout le nord.
Mais la réalité.
Mais en réalité, ce n'est pas vraiment une ouverture académique. Vous trouvez des classes bondées d'enfants et il y a un enseignant volontaire, qui n'est pas formé. qui n'a pas la pédagogie, qui n'a pas le niveau et qui est là dans la classe. Et du matin jusqu'à midi, on ne sait pas ce qu'il dit aux enfants. Académiquement, il n'y a pas de données parce que les objectifs pédagogiques ne sont pas atteints.
Ibrahim Agassari, qu'est-ce que vous aimeriez lancer comme message ? Oumou Sangaré vous écoute avec attention. Oumou Sangaré, vous m'avez dit quand on a préparé cette émission, je pense qu'il faut qu'on fasse quelque chose pour les enfants qui sont dans le nord du Mali à l'heure actuelle, qui manquent d'école. Qu'est-ce que vous feriez passer comme message, Ibrahim ?
Alors, je suis très très contente d'avoir une grande autorité artistique qui s'intéresse à l'école de manière franche. Ça, c'est très rare. Je la remercie. Et surtout que c'est une cause noble. C'est une cause noble qu'il faut vraiment aider dans ces écoles-là qui sont perdues de nulle part. Les ONG nous disent qu'il faut que si on finance une école, il faut qu'on passe la voir. Et pour la voir, il faut avoir la sécurité. Et puisqu'il n'y a pas la sécurité, on ne va pas aller le voir. Donc, moi, ce que je demande, c'est de partir sur des bases de confiance. Des gens qu'on a connus, qui ont l'expérience dans l'éducation, qui ont aussi, qui portent la cause. Il faut avoir confiance en eux, il faut les aider pour arriver à des résultats. Sinon, si on reste dans le truc réglementaire, il faut envoyer des missionnaires, ça, ils vont jamais partir. Parce qu'il n'y aura jamais une sécurité dans les années, les 2 ans, 3 ans à venir, qui permettra cela.
Vous restez en ligne. Vous restez en ligne avec nous, Ibrahim Agassari, parce que la ligne est bonne. On a de la chance. Vous êtes en ce moment à Ouagadougou. Vous vivez entre donc le nord du Mali et Ouagadougou, et vous avez encore des choses à nous dire sur cette toute petite école qui est en train de renaître de ses cendres. Oumou Sangaré.
Félicitations, Ibrahim.
Oui. Un commentaire sur ce que vous avez entendu.
Ça me donne la chair de poule. Et en même temps, je suis très heureuse de voir quand même qu'il y a un professeur qui, malgré ses maigres moyens, malgré l'absence de sécurité, qui s'y met quand même, qui pense au pays d'élèves qu'il a sous la main. Franchement, félicitations. Et
on va en reparler, bien sûr.
Oui, hein, je pense qu'on aura, on réussira vraiment à faire quelque chose dans ce domaine, Ibrahim, Inch'Allah.
Les enseignants qualifiés, la plupart n'ont pas souhaité reprendre leur poste, ouais, malgré des primes que l'on proposait. Oumou Sangaré, on a évidemment très envie de vous entendre chanter, notamment de découvrir une partie de ce nouvel album qui sera disponible seulement à partir du mois de mai pour les voisins et les voisines. D'accord. On va écouter le titre Mogoya, c'est le nouvel album après plus de 7 ans de silence.
Tout
c'est
à
ça,
fait.
Pratiquement.
Presque 8 ans.
Ouais. Mogoya. Sangaré qui chante Mogoya, un des titres du nouvel album, Mogoya.
Ouais, le titre même de l'album, c'est Mogoya.
Les gens d'aujourd'hui.
La relation humaine entre les gens d'aujourd'hui, ouais.
Ils vous déçoivent parfois?
Ouais, beaucoup. Mais, voilà, et j'ai jugé nécessaire d'en parler maintenant, parce que avant que ça soit trop tard. L'amour est en train de disparaître entre les êtres humains. Tout ça s'explique, les guerres.
Et les gens, ils s'aiment plus. Mais la guerre, c'est les enfants. Et on va y revenir juste après le flash. Vous restez avec nous, Oumou, dans 3 minutes sur RFI.
Ici l'Europe. 7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins sur RFI. Nous sommes en compagnie de Oumou Sangaré, aujourd'hui la grande voix du continent qui a choisi de lancer le débat dans l'émission sur la scolarisation des enfants en zone de conflit, ou plutôt la privation d'école. Nihan Blanqui-Kosselecsi, vous nous le disiez, vous appartenez à l'UNESCO, vous faites partie des experts du rapport mondial du suivi de l'éducation pour tous. Et bien sûr, la moitié des enfants aujourd'hui sur la planète qui sont privés d'école sont en général des enfants qui vivent dans des zones de conflit. Sandra Juvara Mellon, vous appartenez à l'ONG Search for Common Ground, qui est une ONG qui travaille sur les conflits spécifiquement. Vous souhaitiez réagir au témoignage de ce directeur d'école, enseignant depuis une vingtaine d'années dans le nord du Mali, Ibrahim Agassarid, qui est toujours en ligne avec nous d'ailleurs.
Ibrahim, salam alaikum. Je suis tellement heureuse d'être avec vous et avec Oumou. Merci Emmanuel. J'ai un petit peu des bonnes nouvelles, en plus de l'admiration que j'ai pour vous, de ce qui se passe aujourd'hui au Mali, en termes de l'attention de la communauté internationale, simplement depuis les deux derniers mois. Tant à Kidal que dans les cercles des souks et d'Anefif, par exemple, il y a l'UNICEF particulièrement qui a commencé à refonctionner et à essayer de travailler avec les écoles qui existent là. Search for Common Ground a le plaisir de travailler aussi avec le gouvernement japonais là-bas et 11 écoles, afin de vraiment comprendre comment, non seulement dans le cadre de l'éducation formelle qui commence un tout petit peu, mais aussi de l'éducation informelle, parce qu'on sait aussi que partout sur la planète, même les enfants qui sont scolarisés formellement, 80% de leur éducation se fait en fait en dehors, se fait dans les cercles sportifs, se fait à travers les conversations, à travers l'éducation des parents. Et donc ce que nous essayons de faire, et je me réjouis de faire votre connaissance, Ibrahim, c'est de vraiment à ce que les autorités locales, les éducateurs, les parents et les enfants qui, après tout, depuis 2015 dans le monde, ont un cadre légal grâce à la résolution du Conseil de sécurité 2250 qui impose à tous les États l'obligation de reconnaître que les jeunes, dès leur plus jeune âge, doivent être inclus dans les prises de décision, tant pour l'éducation que la paix, etc. Donc le rôle qu'Ibrahim et Koumou peuvent jouer avec les médias, avec la culture, avec la musique, vous êtes les héros des jeunes. Et comment est-ce que vos messages peuvent passer à travers la musique, et comment vous pouvez travailler avec d'autres musiciens qui représentent la beauté et la diversité du Mali et qui ensemble peuvent faire comme des collègues ont fait à côté au Niger. Ils sont venus ensemble pour chanter pour la paix et la consolidation d'un pays à travers la religion, à travers les différences politiques.
C'est pas que du symbolique, ça?
Non, c'est pas que du symbolique. Le conflit n'est pas quelque chose d'intellectuel, Emmanuel. Le conflit est quelque chose qui vient du cœur et des tripes. Les gens réagissent à leur peur, aux stéréotypes qui leur sont donnés et à ce qu'ils perçoivent comme étant les craintes que leur groupe ethnique, leur groupe national, leur groupe religieux auquel ils font face. Et donc, ce n'est pas qu'avec l'intellect, ce n'est pas qu'avec l'éducation formelle, c'est aussi avec la culture, profondément.
Oumou Sangaré, je vous sens touchée.
Ouais, c'est touchant. Mais moi, je pense que le fait qu'on a osé de sortir ces problèmes, le poser sur la table, qu'on trouvera...
Il faut dire, il faut parler des problèmes. Il faut dire qu'il n'y a pas d'enseignants dans les classes, il n'y a pas d'enseignants formés, les classes ne fonctionnent pas normalement.
On dit chez nous
il
ne
faut
que...
pas cacher la vérité,
voilà.
C'est ça ?
On dit chez nous que une maladie vendue se soigne vite. Vendue, ça veut dire...
Mise sur la table.
Voilà, mise sur la table, se soigne vite. Donc, moi, faire une chanson sur ça, je suis tout de suite partante.
Attention, parce que là, elles vont vous faire signer un contrat là, avec clair, l'UNESCO. Hein.
Je suis... Parce que ça me tient à cœur. Parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup manqué. Et j'ai tout, presque, dans la vie, mais je n'ai rien. Quand je pense que j'arrive pas à m'exprimer en français ou à lire mes contrats comme il faut. C'est comme si je n'ai rien.
On vous rassure, vous débrouillez très bien en direct à la radio sur RFI.
J'essaye. Mais parce que moi, j'ai pris la conscience sur ces problèmes même, en réalité, en Australie. En Australie, c'est une Malienne. Moi, j'étais en plein débat, en pleine conférence de presse. Voilà une fille malienne qui étudie en Australie, qui s'élève, qui dit je vais parler à Oumu. Et il vient, il pose cette histoire sur la table. Il dit, Oumu, j'ai mon frère. Moi, je suis du nord du Mali. J'ai mon frère qui n'a pas étudié l'année passée, qui a eu une année blanche. On sait que toi, tu as de cœur, quelque chose, voilà. On sait que tu peux faire quelque chose sur ce plan. Et qu'est-ce que tu peux faire sur ce plan? Moi, je pense que j'ai fait 20 secondes, 30 secondes sans pouvoir parler, tellement que j'étais choquée en même temps. Et ça m'a fait revivre moi-même ma situation. J'ai dit, waouh, Oumu Sangaré, si tu es là pour la famille, le bien-être de la famille, les femmes, une femme n'est jamais bien sans que ses enfants reçoivent une bonne éducation. Donc, j'ai dit, il faut faire quelque chose. Entre-temps, RFI m'appelle et me dit, ouais, on veut faire une journée avec vous, Madame Sangaré, quel est le thème que vous voulez nous dire? J'ai dit, tiens, on va parler de l'éducation des enfants qui sont dans les zones de difficulté. Donc, on est prêt à faire tout.
Eh bien, on y va.
Moi, je suis vraiment à la disposition de vous. Et je suis sûre qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont prêts à m'accompagner dans ce sens. Nous, les artistes, on n'a pas d'argent, mais on a notre cœur dans la main. Voilà. Donc, ce qu'on peut faire, on le fera avec plaisir, vraiment, dans ce sens. Parce qu'en tant que maman, en tant que femme, en tant qu'une chanteuse qui n'a pas étudié très longtemps, je sais cet engage, je connais cet engage. Voilà.
Nihan Kosselecci, il faut le dire, aujourd'hui, l'éducation dans le monde, et tout spécifiquement les enfants qui sont privés d'éducation, vivent une situation tout de même assez particulière. C'est qu'il y a de moins en moins d'argent, de moins en moins de dons des communautés, de la communauté internationale pour l'éducation. Il y a de l'argent pour l'environnement, il y a de l'argent pour la santé, et c'est formidable. Mais que se passe-t-il avec la scolarisation, avec l'éducation?
Oui, c'est un sujet qu'on aborde énormément, surtout l'éducation dans les zones en conflit. Imaginez que en 2015, il y a l'aide humanitaire. Et en 2015, seul 1,8% de cette aide humanitaire est allée à l'éducation. Wow. On parle de la sécurité, mais on n'arrive pas à comprendre que l'éducation a ce rôle transformateur. On ne peut pas parler des accords de paix sans mettre l'éducation sur la table, les jeunes sur la table. Et là, c'est là où c'est très importante, parce que c'est là où on peut porter la voix de l'éducation. On peut dire que l'éducation peut ramener la réconciliation. Si c'est utilisé aussi, c'est donné d'une manière adéquate, l'éducation peut transformer et on peut alléger ce monde en conflit.
Ibrahim Agassarid, vous êtes toujours en ligne avec nous à Ouagadougou aujourd'hui. Ibrahim, souvent je vous pose cette question parce que nous nous connaissons depuis de longues années, mais pourquoi vous donnez tant de mal? Votre école a été détruite, vous recommencez à zéro avec une cinquantaine d'élèves. Vous avez formé des enseignants qui maintenant eux-mêmes ont envie d'enseigner, ce qui est rare, y compris dans cette région, qui sont d'accord pour enseigner. C'est ça le moteur pour vous aujourd'hui?
Alors, je vais juste dire quelque chose. Ce qui est arrivé à Oumu Sangaré, je n'ai pas allé à l'école et qu'aujourd'hui, elle souhaite soutenir ceux qui vont à l'école. C'est exactement une petite histoire dans mon enfance. Je suis arrivé à l'école, moi, par hasard. C'est-à-dire, ces années où je devrais être... Il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas non plus la volonté des parents, parce que je suis fils d'un pasteur nomade, d'un éleveur. Donc, l'école, il n'y avait pas besoin, parce que pour aller à l'école, c'est pour chercher un boulot, c'est pour chercher quelque chose pour soutenir sa vie. Mais dans mon cas, mes parents étaient éleveurs, ils n'ont pas de besoin. Les animaux arrivaient à tout supporter, tous nos besoins.
Vous êtes arrivé à l'école à quel âge, Ibrahim, pour la première fois?
Alors, j'arrivais à l'école à 9 ans.
Wow.
Donc, j'ai vu que j'ai beaucoup travaillé, j'ai sauté des classes pour arriver à une école même supérieure. Et après, informatique, j'ai vu que moi, j'ai eu la chance, mais personne dans ma famille, personne dans mon village, je n'ai pas donné une chance à personne. Si je reste informaticien dans un bureau, dans une société immobilière, je suis retourné, j'ai ouvert une école, une classe, j'ai ramené des enfants et je donne la chance à ces enfants. Donc, ça m'a tellement, quand je vois ces enfants qui sortent de l'ignorance et qui retrouvent le chemin de choisir leur destin, qu'ils ne soient pas condamnés à être nomades comme leurs parents, sédentaires et agriculteurs comme leurs parents, qu'ils choisissent leur avenir dans un monde en pleine mutation.
Qu'est-ce que vous dites aux jeunes qui, à l'heure actuelle, sont déscolarisés, sont tentés par la violence, voire ont sombré dans la violence? Alors, vous les connaissez, une bonne partie d'entre eux?
Je les connais. J'ai été récemment à Kidal, j'ai rencontré l'ONG Common Ground, j'ai rencontré tout ce qui se passe pour l'école, parce qu'il ne suffit pas seulement de faire une petite école de 50 élèves quelque part, et quand tout votre environnement n'est pas scolarisé, ou faire semblant d'être scolarisé, il faut faire un tri d'ensemble. Parce que si les autres ne partent pas à l'école, ils vont vous impacter négativement. Donc, c'est là où j'ai retrouvé des écoles où il y a beaucoup d'enfants dans les classes, les enseignants n'ont pas le niveau. J'ai pensé à quelque chose, on retourne aux années 60. Les années 60, c'est quand on vend l'école aux populations, et maintenant les enseignants sont tout nouveaux, c'est leur première expérience, les élèves aussi.
Vous voulez dire que dans le nord du Mali, à l'heure actuelle, on est revenu à la situation post-indépendance, pour l'école?
Exactement. La seule différence, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont la volonté d'aller à l'école, leurs parents aussi, mais le défaut, c'est qu'il n'y a pas d'enseignants.
Mais l'école elle-même est une coquille vide aujourd'hui pour vous? L'école elle-même est une coquille vide, celle qui est proposée institutionnellement?
Et un petit exemple. Quand j'ai rencontré l'ONG Common Ground à Kidal, ils veulent travailler pour montrer la non-violence dans les classes avec des dessins. L'expression des enfants, c'est le dessin. Et je rencontre les classes, les enfants, depuis le début de l'année jusqu'à maintenant, au mois de février, aucun enfant n'a rien dessiné. Donc comment voulez-vous que les enfants s'expriment s'ils ne dessinent pas? Quand je demande aux enseignants pourquoi vous ne faites pas dessiner les enfants, ils me disent que le dessin n'est pas important.
Ah, donc si on ne dessine pas, on chante encore moins?
Voilà, on chante encore moins. Et je me rappelle, j'étais dans une classe. Quand j'entends les chansons que les enfants chantent, et je connais le sens, mais les enfants ils chantent sans qu'on appelle le sens. Souvent, c'est des chansons de violence, souvent, c'est des chansons dont ils ignorent ce qu'ils veulent dire. Je les ai rassemblés, j'ai chanté une chanson qui a un sens. J'ai construit ma maison, un truc comme ça. Une dame est venue à moi, parce que quand elle avait tous les enfants sont dans la classe, m'écoutaient. Elle pense que j'ai fait quelque chose de très intéressant, de très... Elle a écouté à la fenêtre et quand elle a fini, elle me dit « Moi, je pense que c'est quelque chose de nouveau. Les enfants chantent tous les jours. » Donc, voilà, il y a certaines choses qui sont très importantes pour nous enseignants. La chanson, les dessins...
Bon, au Moussangaré, je pense que vous serez bientôt invité. Sandra Djevara-Mélone.
Je pense que ce qui est très important, Ibrahim, en effet, c'est de ne pas laisser les enseignants seuls. Ce qui est très important, c'est de créer des opportunités où les autorités locales, quelles qu'elles soient, les parents, les enfants et les enseignants, en fait, sont ensemble à une table proverbiale et une table réelle pour discuter de quels sont les moyens par lesquels la communauté en son entièreté, non comme une cible qui peut être potentiellement perçue comme une menace aux autorités. N'oubliez pas que la jeunesse dont Emmanuel parlait est très souvent perçue soit comme étant des victimes seulement de violence, soit en étant ceux qui sont violents et qui sont à même de commettre des crimes contre leur propre communauté. Et ce qui manque, ce sont des espaces de vrais dialogues qui sont menés d'une façon qui ne soit pas agressive. Que ce soit au Mali, au Yémen ou dans beaucoup d'autres communautés, le fait est que souvent, la gestion du conflit se fait avec la violence.
Tout à fait.
On prend un bâton et littéralement, on frappe les enfants pour qu'ils se soumettent à l'ordre de l'autorité patriarcale, normalement locale. Et c'est en partie parce qu'on croit qu'il va y avoir une révolte de la jeunesse aussi, sinon. Il y a moyen de créer des centres avec Ibrahim et Oumou et beaucoup d'autres gens au Mali qui vraiment créent à ce que la communauté en sa totalité regarde les problèmes auxquels la communauté est confrontée ensemble.
Oui, y compris au cœur des conflits, au cœur de l'adversité, au cœur de la violence et de l'insécurité. Nyan Kosselechi, aujourd'hui, quand on regarde les statistiques, puisque à l'UNESCO, vous travaillez beaucoup évidemment sur des statistiques, qu'est-ce qui vous donne de l'espoir pour l'éducation des enfants en zone de conflit?
Ce qui nous donne de l'espoir, c'est effectivement qu'on commence à en parler et qu'il y a des gens qui commencent à s'engager et s'intéresser à la question des filles, à la question des conflits, et qui commencent à s'intéresser à ce genre de choses et qu'on commence à parler des pédagogies nouvelles, justement utiliser la chanson, les dessins. On commence à engager les gens, on commence à parler par exemple de la violence extrême, comment les jeunes s'engagent dans le terrorisme, dans l'extrémisme, et quel rôle l'éducation peut jouer et quelle éducation. Parce que je pense que la question, c'est pas juste l'éducation, mais de quelle éducation on veut pour nos enfants. Parce que n'importe quelle éducation peut entraîner aussi les enfants dans le passé, on a vu dans le cas du Rwanda, dans le cas de la Bosnie, qu'une éducation qui n'est pas bonne, ça peut engendrer des conflits.
Et en même temps, on a vu dans le passé, si on prend un pays comme le Cambodge, historiquement, la quasi-totalité des enseignants ont été tués pendant le génocide au Cambodge, entre 75 et 79. L'école a été vraiment rayée de la carte. Il a fallu tout reconstruire, tout un système éducatif à partir de rien. Aujourd'hui, ça fonctionne. Certes, ça a commencé à fonctionner 20 ans plus tard. On espère bien évidemment que les pays qui sont en conflit, mais qui n'ont pas connu de situation aussi grave, vont se reconstruire, bien sûr, plus vite. Oumou Sangaré, je sais que vous, avant de vous intéresser à l'éducation, avant de mesurer vos manques d'école, de mesurer peut-être aussi du fait que vous avez manqué d'un guide. Vous avez vous-même été le guide de beaucoup de monde. Vous avez eu votre maman qui a été votre guide. Vous n'avez pas eu un enseignant qui a été votre guide, pas réellement.
Non.
Peut-être la musique en tant que telle.
La musique m'a beaucoup guidée et la souffrance aussi m'a beaucoup guidée, naturellement. Voilà.
Vous battre, remonter la pente encore et toujours?
Of course. Bien sûr.
Vous avez toujours bien sûr. Alors, par contre, on est bien au courant de vos engagements féministes. Ça, là-dessus, vous ne mâchez pas vos mots. Sur votre album, il y a cette chanson que moi j'aime beaucoup. C'est Kamelemba.
Kamelemba.
Ça veut dire, pour parler direct, coureur de jupons.
Coureur de jupons, les dragueurs.
Vous pensez aussi...
menteurs.
Vous pensez aux pères qui désertent les foyers.
Les Kamelemba, ils sont partout. Ça peut être... parmi les pères, ça peut être parmi les jeunes. Mais là, j'ai juste alerté mes sœurs. Faites attention, ils sont encore parmi nous. Ils sont gentils, ils sont prêts à tout pour vous.
Mais il faut se méfier.
Il faut se méfier pour vous convaincre et puis pas vous tromper. Faites attention, voilà.
Kamelemba chez cette milliard de voisins. Oumou Sangaré, notre invité.
Ne dia nyemoni mirimanyu ine fil Agnoronye.
Kamelemba, un titre du nouvel album d'Oumou Sangaré qui sortira au mois de mai. Grand concert, bien sûr, à la Halle de la Villette demain.
Demain, c'est
Oumou Sangaré. Vous êtes notre invité aujourd'hui. On va vous retrouver aussi sur l'antenne de RFI dans d'autres émissions. Kamelemba, ça veut dire coureur de jupons. Je sais que vous êtes très sensible à la cause des filles. Depuis longtemps, vous dénoncez les mariages forcés, l'excision. Maintenant, vous vous intéressez à la cause des enfants. Alors, le débat continue pendant qu'on écoute vos chansons en même temps, Oumou Sangaré. Parce que vous vous adressiez à l'UNESCO, aux ONG. Oui. Pour dire, il y a une situation d'urgence pour les enfants dans le nord
très
du Mali.
Urgent, très, très urgent.
Vous, vous avez une proposition, vous avez envie de vous mobiliser à votre façon.
Voilà, depuis que j'ai entendu la fille me dire que son frère a vraiment raté une année.
Ça, c'était à la conférence de presse en Australie.
Ça, c'était à la conférence de presse en Australie. J'ai pensé à un système de voir, parce que c'est vrai, Ibrahim fait beaucoup. Ibrahim seul ne pourra pas. Et est-ce qu'il y a assez d'écoles qui sont ouvertes? Il y a des jeunes, même s'il y a l'école qui est ouverte, les jeunes sont traumatisés. Les jeunes n'ont pas l'esprit tranquille dans l'école. Certains ont peur. Maintenant, ce que je voulais proposer à tous les gens qui ont le cœur sur la main, de nous aider à essayer de sensibiliser certaines familles, des familles dans le sud, des familles à Bamako, et de pouvoir accueillir les enfants. Maintenant, nous, notre rôle sera quoi? C'est d'accompagner ces enfants-là qui viennent juste pour étudier après le moment de la scolarisation. Ils rentrent chez eux, mais leur permettre d'étudier l'esprit tranquille, tranquillement. Donc, ce que j'allais proposer, c'est d'avoir, être accompagné pour qu'on puisse aider ces enfants-là. Les familles qui accueillent aussi, on connaît l'Afrique, chacun se cherche un peu. On ne va pas leur donner du poids. On va essayer.
Vous lancez un appel,
Je lance un appel. Ouais. On essaye d'aider. C'est une manière. Parce que je ne sais pas comment. Je suis en train de trouver la solution, voilà, à des enfants qui veulent vraiment étudier et qui sont bloqués, il n'y a pas de moyens.
Sandra, Juvara-Mellon, est-ce que ce genre d'initiative, ce n'est pas aussi le risque, finalement, qu'on ne cherche pas de solution politique au système éducatif dans le nord du Mali, qui est moribond depuis plusieurs années?
Alors, je pense qu'il faut vraiment avancer sur plusieurs parallèles qui se rejoignent à la fin. Et bien entendu, l'éducation partout, y inclus au Mali, se fait aussi en dehors de l'éducation formelle, évidemment, surtout et beaucoup dans les sites religieux. Que ce soit dans des églises ou que ce soit dans des mosquées, il est impératif que nous travaillions avec le leadership religieux afin qu'on pousse soit à renoncer à la violence plutôt que de fomenter de la violence, ce qui se fait très souvent, et que vraiment les communautés agissent avec leur leadership religieux.
En tout cas, leadership qui est en accord avec les principes de l'éducation pour tous les enfants sur la planète. Merci à vous toutes. Merci Ibrahim Agassarid qui était en ligne avec nous et qui tente de faire renaître l'école des sables dans le nord du Mali. Merci beaucoup Oumou Sangaré.
Merci à vous.
Demain, vous serez en concert à la Grande Halle de la Villette, seule date en France pour le moment.
J'invite tous les Maliens de la place.
Et d'ici là, vous pouvez leur faire confiance. Et d'ici là, rendez-vous dans l'émission. Vous m'en direz des nouvelles avec Jean-François Cadet. Couleur tropicale avec Claudicia.
Ouais,
vous
bientôt,
serez en live
ouais.
Facebook à 18h30. La journée va être longue
ouais.
pour vous. À la rencontre de vos fans.
Ouais.
Néane Blanchy-Koselechi, merci beaucoup. Vous appartenez à l'UNESCO. Et puis, merci aussi à vous, Sandra Duvara-Mellon de l'ONG Search for Common Ground. Merci à toute l'équipe, Cécile Lavolo, Camille Néran, Sophie Janin, Didier Cherouz. Demain, 7 milliards de voisins. La parole est à ceux qui veulent entreprendre en Afrique. Vous connaissez bien aussi ça, vous pouvez s'en garer. On a un coach qui vient dans l'émission une fois par mois, Didier Akwete, à qui on peut demander des conseils business. Voilà.
D'accord.
À demain les voisins et les voisines. Merci pour votre fidélité.
Présidentielle 2017.